Pauline Pucciano, Paradict, 4 février 2072. Mort d'un haut fonctionnaire, l'hommage international à Curtis Anglione. Terence Oxford hospitalisé, la rumeur se confirme. Les protestations continuent dans le secteur de la recherche spatiale. Que se passait-il ? Une sensation d'urgence, et même de catastrophe, était présente à l'esprit engourdi de Terence, mais elle était évanescente. Il ne parvenait pas à mettre de mots dessus. Il fallait d'abord qu'il se réveille, qu'il quitte cet état comateux. Des images fleurissaient incessamment dans sa tête, dont il ne savait pas si elles étaient issues de sa mémoire ou de son imagination artificiellement stimulée. Il se sentait sous emprise chimique, et les visions qui occupaient malgré lui sa conscience lui paraissait bizarre. Un cheval au galop dans un espace vide, un train, une rue la nuit avec des néons verticaux, une mariée sanglante, une clinique, un déguisement de clown. Il se sentait sans cesse surpris par l'absurde renouvellement de ces images sans suite, fasciné par ce kaléidoscope mental où aucune forme cohérente ne parvenait à émerger. Dans un effort surhumain, Terence ouvrit les yeux et mit du temps à accommoder sa vision. La réalité lui fit cependant l'effet d'une douche froide, et il se sentit instantanément plus clair. Il se trouvait dans une vaste chambre inconnue, sans fenêtre, richement décorée dans un style ancien qui ne lui déplaisait pas. En tournant la tête, il s'aperçut que son lit était médicalisé et qu'il portait lui-même une casaque de malade. Que lui était-il donc arrivé ? Il fit un effort de mémoire et retrouva le fil de la journée du 2. Il avait passé la matinée à ranger son appartement et à faire le ménage dans ses dossiers compromettants. Il avait tagué et arrosé son bonsaï. Puis il avait déjeuné brièvement avec sa femme à la WA. Des photographes avaient pris plusieurs clichés de ce repas, administrativo-conjugal. Il s'en était plaint et Elsie lui avait gentiment pris la main, non sans lancer une œillade à ses complices preneurs de vue. Cette main gracieuse et protectrice, aux ongles peints, sur la belle main d'intellectuel de Terence, avait fait le tour du monde. Terence s'était plaint d'avoir troqué une fonction d'homme politique pour une fonction de mannequin, toujours en souriant, et Elsie lui avait répondu, en souriant également, d'arrêter de faire l'enfant. Fort heureusement, cette fonction purement décorative ne lui prenait pas beaucoup de temps, car Elsie était extrêmement occupée et passait le plus clair de ses journées dans le bureau palatin, où lui-même n'avait plus accès. Il jouissait donc, en dehors des obligations très strictes auxquelles le soumettait Karl Courseul, d'une assez grande liberté. L'après-midi... Qu'avait-il fait l'après-midi ? Il avait lu la presse internationale et pondu une analyse assez percutante des derniers rebondissements diplomatiques entre l'Iran et la Chine. Il avait lu aussi. Il se souvenait d'un article très intéressant sur le Paradict qui présentait cet univers virtuel comme l'un des derniers bastions de la liberté d'expression. Il avait également fait le tour du net pour prendre la température de l'opinion publique. L'image d'Elsie avait totalement changé en l'espace de quelques jours. La jeune femme sympathique à qui tout réussissait s'était transformée en un chef d'État redouté. Elle suscitait autant d'amour que de haine, autant d'espoir que d'angoisse. Le plus étrange était qu'on investit, contre toute attente, d'une sorte de mission messianique. Toute la crapule politique semblait s'être réunie sous sa bannière, depuis les antispécistes jusqu'au parti de l'innovation. Léviathan avait été présenté à la foule comme une solution miracle, et Terence songeait que plus les solutions miracles étaient simplistes et grossières, plus elles recevaient d'adhésion. Le monde ne changeait pas. Le monde en crise était prêt à s'engouffrer dans n'importe quelle brèche pourvu d'avoir l'impression de sortir du cul-de-sac où il s'enlisait. Il suffisait d'agiter un espoir, une idée, la guerre, la haine d'une race, la foi en la technologie. Plus l'étendard était criard et plus on le suivait. Léviathan était le Deus ex machina, destinée à sauver l'humanité, Elsie était son prophète. Aucune argumentation sérieuse, aucun pouvoir de la raison n'était de taille à lutter contre ça. En fin d'après-midi, comme à son habitude, Terence s'était sorti pour s'acheter à manger, et c'était sur ce trajet familier que quelque chose lui était arrivé. Mais quoi ? Il n'avait le souvenir que d'une douleur aiguë à l'arrière de la tête, soudaine et violente comme un coup. Puis le monde s'était obscurci. Terence pensait qu'il s'était évanoui. Il supposait qu'on avait dû lui porter secours, l'emmener dans un hôpital ou dans une clinique. La chambre dans laquelle il se trouvait ne ressemblait cependant pas à celle d'une clinique, même luxueuse. Terence, avec une énergie un peu factice, repoussa brusquement le drap et fit naturellement, sans y songer, le mouvement pour se lever. Mais son corps ne bougea pas. Cette constatation, qu'il fit dans le calme d'une chambre où il se trouvait seul et sans aucun danger apparent, fut la chose la plus effrayante qui lui fût jamais arrivée. Il réitéra son mouvement et constata à nouveau l'impossible, le terrible échec de son corps. À partir de la taille, son corps n'était plus son corps, mais un objet insensible et inerte, un poids mort. Pris de sueur froide et d'une accélération du cœur presque douloureuse, il se mit à crier. Une infirmière arriva presque aussitôt. Terence ne la connaissait pas. Rien de tout ce qui l'entourait ne lui était d'ailleurs familier. Aucun parfum, aucun bruit, même pas son propre corps. « Ah, monsieur Oxford, je vais pouvoir rassurer votre femme !» Quelque chose semblait gripper dans l'esprit de Terence. Lorsque l'infirmière dit « votre femme », cela lui fit un effet bizarre et il dut se concentrer pour se souvenir qu'en effet, il était marié depuis quelques jours. Combien de jours? 3, 4, 5 peut-être? Il se souvenait bien du mariage, de cette interminable journée de représentation couronnée par la tentative d'assassinat à l'exhibit. Il se souvenait aussi d'une nuit de noces silencieuse, presque agressive, pendant laquelle les époux s'étaient réfugiés dans le sexe, puis dans le sommeil, pour éviter de se parler. Il se souvenait ensuite de quelques journées solitaires à s'occuper de ses lectures, de ses articles, de son appartement. « Où suis-je ?» demanda péniblement Terence, en ayant l'impression de se trouver dans un mauvais film. « Vous êtes chez vous, monsieur Oxford, dans votre nouvelle maison que Madame Costa a fait préparer pour vous. » « Depuis combien de temps ? Vous êtes rentré de la clinique hier. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Probablement un AVC, monsieur Oxford, même si les analyses ne sont pas toutes convergentes. Nous avons eu très peur pour vous, mais fort heureusement le cerveau est intact. »« Le cerveau, mais pas les jambes, » fit remarquer Terence sourdement. L'infirmière eut un sourire plein de compassion. « Dans quelques semaines, au plus dans quelques mois, vous pourrez bénéficier des meilleures technologies prothétiques. » Regardez ce modèle, on dirait une vraie jambe. En effet, ce qui ressemblait à s'y méprendre à une jambe coupée trônait sur une chaise. Terence devinait le réseau de nerfs synthétiques qui pourrait se greffer à ses propres terminaisons nerveuses lorsqu'on l'aurait amputé. Quelle chance ! S'extasia ironiquement Terence. Malheureusement, en attendant, ne suis-je pas prisonnier de ce lit ? Souhaitez-vous que j'appelle le psychologue pour un soutien psychologique ? Non, merci. Alors je vais prévenir votre femme. L'infirmière sortit et Terence ne répondit rien. Il lui semblait que l'histoire qu'on venait de lui raconter n'était pas la sienne. Un AVC, dans la rue. Évidemment, c'était possible. Cela arrivait tous les jours. Mais cela ne correspondait pas à ce qu'il ressentait intimement. Il ne reconnaissait pas ce récit comme capable d'éclairer sa réalité. Et puis, un AVC ne lui aurait-il pas plutôt paralysé le visage ou une seule partie du corps ? Il bougea les bras et se releva un peu. Les jambes étaient mortes. Mortes. Assassinées. Ainsi donc, Elsie avait fait préparer un appartement, probablement dans la city, mais dans un quartier résidentiel. Il lui semblait pourtant que la hauteur de plafond et l'ampleur de la pièce indiquaient plutôt une maison individuelle, sans doute un hôtel particulier. Ce détail le dérangea. Avait-elle pu en 24 ou 48 heures faire préparer une maison, toute secrétaire générale qu'elle était ? Ou bien s'agissait-il d'un projet plus ancien dont elle ne lui avait pas fait part? Il avait manifesté sa volonté de demeurer dans son appartement, prétextant ses habitudes de célibataire endurci et le fait qu'elle vive presque exclusivement de toute façon au bureau palatin. Mais ceci n'avait pas eu l'heure de plaire à Karl Courseul, qui voyait dans le domicile conjugal l'une des bases intangibles d'un mariage. Et voilà qu'il se retrouvait là, sans avoir guère eu le loisir de protester, et sans la moindre possibilité de s'échapper. Captif d'un domicile conjugal luxueux, avec une infirmière à disposition, dans une position de totale dépendance. Son cœur se serra, et il eut une sorte de vertige intérieur, en songeant qu'il devait être incontinent, impuissant. La pensée de son sexe flétri, inerte, souillé peut-être, l'emplit d'une tristesse qui lui fit monter les larmes aux yeux. Puis il se reprit. Il verrait cela plus tard. La médecine ne l'abandonnerait pas. Le plus important, maintenant comme toujours, était de comprendre ce qui lui arrivait. Elsée arriva au bout d'un temps qui lui parut très court, mais les médicaments le rendaient un peu somnolent, par brusques à-coups, et il n'était pas sûr de ne pas s'être rendormi au beau milieu de sa perplexité. Elle lui sembla un peu changée, même s'il avait du mal à déterminer pourquoi. Le visage frais et mobile de la jeune femme dont il était tombé amoureux cet automne avait cédé la place à un visage marqué. Il avait constaté chez plusieurs personnes cette usure du pouvoir. Au bout d'un temps très court, l'effet était saisissant. Comme si le pouvoir modelait les traits pour les accorder à quelque chose d'abstrait, les visages se mettaient à ressembler à des masques, à des statues. Ils devenaient plus signifiants, mais également plus rigides. Elsée entra seule, mais Terence entendit dans le couloir des voix qui chuchotaient. Elle se précipita sur lui pour l'embrasser et lui sourire, et le regarda dans les yeux d'un air étrange, ou plutôt, d'un air qui ne s'accordait pas à la circonstance. Un air satisfait. « Comment te sens-tu ? » lui demanda-t-elle. « J'ai connu mieux, » répondit-il. « Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Elle te plaît ? C'est un hôtel particulier du 7e arrondissement. 6 chambres, un jardin, une cour. Tu seras parfaitement au calme ici. » « Je voulais rester dans mon appartement, je te l'ai dit. Mais c'était avant. » Elsée se tut, théâtrale, et regarda les jambes de Terence longuement, complaisamment. « Maintenant, tu as besoin d'assistance et de repos pour ta convalescence. Tu seras beaucoup mieux ici. »« Si je ne veux pas, je ne tolérerai aucun refus, » dit-elle sans agressivité, mais d'un ton sans réplique. Il bouillait intérieurement, mais ne répondit pas, et se contenta de détourner le regard. « Il n'y a pas une chambre avec fenêtre ? Avec la tentative d'attentat, tu n'y penses pas ? C'est toi qu'on essaye de tuer, pas moi ?» Elsée observa un silence, comme si elle l'invitait à méditer sur sa propre phrase. Avait-on essayé de le tuer, lui ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? On ne le sait pas exactement. Tu as été retrouvée sans connaissance dans la rue. L'infirmière m'a parlé d'un AVC. C'est la version que nous avons donnée aux médias. Et la vraie version ? Il n'y a pas de vraie version. On ne sait pas. Je te laisse y réfléchir. Manifestement, elle n'en dirait pas plus. Il suffit parfois de regarder à qui profite le crime, dit-il. Ils échangèrent un regard profond, rempli à la fois d'intelligence et d'animosité. Mais qui voudrait te voir dans un tel état ? Demanda-t-elle. Je préfère peut-être ne pas le savoir, conclut-il. Elle reprit son sourire enjôleur et lui arrangea une mèche de cheveux. « Regarde, je t'ai apporté ton bonsaï. J'ai pensé que cela te ferait du bien de l'avoir près de toi. Le symbole de la résilience. » Terence trouva désagréable l'idée de cette intrusion dans son appartement. « Merci, » souffla-t-il. « Nous allons prendre quelques clichés et je vais repartir, maintenant. » Terence ouvrit la bouche pour s'insurger. « Des clichés, maintenant, dans son lit d'invalide ?» Mais il commençait à comprendre qu'il n'avait plus le choix. Avec ses jambes, gisait également sa liberté. Il était en train de payer le prix de la chaise renversée, de son départ précipité, de son humeur maussade au mariage. Il était maintenant cloué au lit, à la disposition des photographes. « Et si je ne souris pas sur les photos ? Qui aurait envie de sourire dans ta situation ?» Il y eut un moment de silence pendant lequel Elsée alla ouvrir la porte. Terence devina la présence de Karl Courseul, mais aussi de Frédéric Johnson et d'Abel Costa. Le jeune homme lui adressa un regard de compassion, un regard authentique qui le toucha, mais il fut bientôt bousculé par les photographes et caméramens qui s'engouffrèrent dans la chambre. Des projecteurs furent installés, des meubles déplacés. Terence avait l'impression de faire un cauchemar. Elsée, qui avait les lèvres plus rouges qu'à la minute précédente, vint s'installer sur une chaise. Elle entoura Terence de son bras et essaya plusieurs poses. Les photographes lui donnaient des conseils. Terence avait l'impression d'être devenu un meuble. « Essayez de vous tenir un peu plus haut, Madame Costa. Il n'est pas bon que votre tête soit plus basse que celle de votre mari. » Abel se tenait dans un coin de la chambre et observait cette effervescence dans la plus parfaite immobilité. Il chercha le regard de Terence et lorsqu'il l'eut trouvé, celui-ci eut l'impression qu'il essayait de lui dire quelque chose, d'exprimer une intention. C'était, curieusement, un regard de connivence qui disait « Je ne fais pas partie de cette meute de chiens ». Terence lui sourit et Abel lui rendit son sourire, puis on somma Terence de regarder la caméra. La séance de pause fut fatigante. Terence avait encore de brusques somnolences et le bruit et l'agitation autour de lui lui donnaient le vertige. Il avait faim et soif également, mais il fit un effort pour qu'ils partent tous au plus vite. Tous, et surtout elle, qui commençait à lui inspirer une horreur profonde, irrationnelle. Lorsqu'il perdit à nouveau connaissance, tout le monde était encore là, en train de s'agiter, mais lorsqu'il rouvrit les yeux, la chambre était presque vide. Abel Costa était resté seul, au chevet de Terence. Il était en train de lire un livre que Terence identifia comme une biographie de Fouché. Terence l'observa un moment avant de lui adresser la parole. Ce garçon était un spécimen d'humanité si parfait qu'il en devenait fascinant. « Auriez-vous l'amabilité de me trouver quelque chose à manger et à boire ?» demanda Terence d'une voix courtoise. Abel, plongé dans sa lecture, sursauta légèrement et sourit. « Bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. » Il revint très vite avec un plateau et l'installa devant Terence sans affectation. « Bon appétit !» dit-il avec un nouveau sourire, en se rasseyant. « Allez-vous me dire pourquoi vous êtes resté au chevet d'un vieil invalide ?»« D'abord, je vous signale que techniquement, vous êtes mon beau-frère. »« Et jusqu'où avez-vous le sens de la famille, Abel ?»« Mon sens de la famille est moins développé qu'il n'y paraît, » répondit le jeune homme du tac au tac. La conversation s'engageait sur un double sens, et Terence ne put s'empêcher de songer à ce livre qu'il lisait, sur Fouché, l'homme aux convictions obscures, changeantes. Il n'était pas impossible que cet esprit brillant et indépendant, c'était du moins la réputation qu'on lui faisait, eût quelques réserves quant à la politique de sa sœur. « Mon cher Abel, je vous connais mal, mais, à vrai dire, je n'ai rien à perdre. »« Détrompez-vous, » le coupa Abel. « Vous avez encore vos bras et votre vie. En revanche, vous n'avez rien à craindre. Je veux dire, vous n'avez rien à craindre de moi. » « Pensez-vous que j'ai quelque chose à craindre des autres ?»« Oui. »« D'Elzé aussi ?» demanda Terence après une hésitation. « D'Elzé surtout, » dit Abel. Terence avait besoin de réfléchir et il mangea silencieusement pendant quelques minutes. « Vous ne pensez pas que j'ai fait un AVC ?»«
Non. »«
Vous pensez que mon accident a été organisé, intentionnel ?» Il est difficile avec les gens opportunistes de savoir s'ils provoquent les occasions ou s'ils se contentent d'en profiter. Il est possible que cela ait été intentionnel, ou bien Karl Courcelle a simplement eu, devant cet événement tragique, un coup de génie. Toujours est-il que la cote de popularité de ma sœur est au plus haut, en partie grâce à vous. Terence prit son temps pour mastiquer son pain avant de reprendre la parole. Je vous avais cru envoyé par votre sœur au départ. Je lui ai proposé de rester, et elle a trouvé que c'était une très bonne idée. Elle me fait une totale confiance. « Je ne peux pas en dire autant, » dit Terence sombrement. « Et regardez où cela vous mène, » observa Abel. « Vous me disiez, avant que je vous coupe, que vous n'aviez plus rien à perdre. »« Oui, j'allais vous dire que, après mûre réflexion, depuis mon mariage, j'estime que la seule chose à faire pour un honnête homme... et de se consacrer maintenant à la ruine de cette machine Léviathan et de ce gouvernement. J'ai toujours été contre les méthodes violentes, mais la violence envers une machine est-elle réellement une violence ? Abel pesa ses mots. « Vous avez conscience que cette chambre pourrait être sur écoute ?»«
Oui. » »«
Je vous remercie de votre franchise, Terence, et par égard pour votre détresse physique et psychologique, je ne rapporterai aucun de ces propos à ma sœur. » Terence se sentait déçu. Il avait espéré une conversation à cœur ouvert, et Abel continuait à jouer avec les mots comme une anguille. « Vous reviendrez me voir ?» demanda Terence. « Je n'y manquerai pas, promis Abel. Avez-vous de besoin de quelque chose, de quoi que ce soit ? Vous pouvez me trouver mon ordinateur ? Je crois qu'il est là à côté. Je dois vous préciser que son contenu a été vérifié avec soin, et que tout ce que vous ferez avec cet ordinateur s'affichera quelque part dans un bureau de l'Intelligency. Un opérateur sera spécialement chargé de surveiller vos agissements virtuels. » Terence eut un soupir de surprise et d'indignation. « Comment ose-t-il » murmura-t-il. « Là n'est pas la question la plus urgente, à mon avis. » Vous pouvez me trouver un accès qui ne soit pas surveillé ? Abel haussa les épaules. Je ne vois pas comment. Mais il y a au moins un lieu qui a été conçu pour éviter toute surveillance. Le Paradict. C'est un monde très complet, vous savez. Vous serez surpris de le découvrir. Dans votre état, je ne saurais vous donner un meilleur conseil. Conçu pour éviter toute surveillance, vous en êtes sûr ? Absolument. Il est impossible de tracer un ange. Cette intraçabilité physique et virtuelle est inscrite dans le programme. Comment vais-je justifier cela ? Vous n'avez qu'à dire que vous avez besoin d'évasion. Dans le Paradict, mon ange s'appelle Cain. Terence ne put réprimer un sourire. Vous comptez tuer votre frère ? Abel sourit. Non, pas mon frère. Mon frère est le meilleur d'entre nous trois, dit Abel. Papa et Elze n'en ont pas conscience, mais je l'ai toujours su. Abel se leva et alla chercher l'ordinateur mobile qu'il plaça devant Terence à la place de son plateau. Je peux vous montrer si vous le souhaitez. Me montrer quoi ? Comment on se connecte au Paradict ? Comment on architecte son ange ? Pas maintenant, je vous remercie. Je suis encore beaucoup trop fatiguée. Abel jeta un œil sur la perfusion qui répandait son goutte à goutte dans les veines de Terence. Si j'étais vous, j'arrêterais les médicaments, Terence. Il ne manquerait plus que vous deveniez dépendant. Terence avait envie qu'il parte maintenant. Sa conversation l'intéressait toujours vivement, mais le sommeil alourdissait son cerveau et fermait ses paupières irrésistiblement. « Je reviendrai en fin de semaine pour le Paradict, » disait la voix d'Abel de plus en plus lointaine. « Et je vous amènerai aussi quelques livres. Je ne vous laisserai pas tomber, Terence. Vous pouvez compter sur moi. » Terence réussit à faire un sourire à ce jeune homme plein de grâce qui paraissait veiller sur lui comme un ange. Puis il sombra dans un lourd sommeil synthétique, crevé de vision. Un nuage bleu ourlé de lumière, des ailes aux plumes nacrées, un rayon d'or avec des grains de poussière qui dansent, un sexe replié comme un coquillage, un sablier s'écoulant au goutte à goutte, une fenêtre ouverte sur l'azur, le visage d'un homme inconnu aperçu de manière oblique par des paupières entrouvertes, surgissant d'une blouse verte de chirurgien, le visage enfantin, frais et mobile, d'Elzée.